Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Merci d'avoir choisi IDFM Radio pour passer cette fin d'après-midi en notre compagnie. Nous sommes le troisième mardi du mois d'octobre, plus précisément le mardi 18 octobre, et comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 18h à 19h, vous retrouvez l'émission Entre Chien et Loup, rubrique À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique, où pendant une heure, on prend de l'altitude et on va voir ce qui se passe dans l'espace, avec comme animateur Franck. Bonjour à toutes et à tous. Cette émission a une marraine qui est Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 208e émission d'À toi les étoiles qui fait sa rentrée, et oui, toujours un mois plus tard, parce que À toi les étoiles prend ses quartiers d'été durant toute la saison de l'été et donc fait sa rentrée à l'automne, c'est-à-dire au mois d'octobre. Souvenez-vous, le 25 décembre 2021 était lancé le télescope spatial James Webb. Et vous savez que j'ai pour habitude de ne pas en parler tout de suite. J'ai préféré attendre que le télescope se place sur son orbite définitive et puis commence à travailler avant d'y consacrer une émission. Ça fait maintenant 10 mois que le télescope est en place et j'ai décidé de consacrer cette émission de rentrée au télescope spatial James Webb. Et pour en parler avec nous, j'ai invité Raoul Lannoy, qui est président du club d'astronomie Vega, un club d'astronomie qui se trouve en Belgique. Monsieur Lannoy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en cette fin d'après-midi pour parler de ce télescope spatial James Webb. Première question, Raoul Lannoy, pourquoi avoir construit ce télescope alors qu'on a un autre télescope qui fonctionne très bien et qui est le télescope spatial Hubble?
Alors, c'est très vrai, mais disons que le Large Space Telescope, qui était l'ancêtre du Hubble Space Telescope, était déjà dans les têtes des savants et des techniciens de la NASA et de certains centres astronomiques aux États-Unis depuis les années 70 et en même temps que la navette. Parce qu'il y a une soute très grande dans la navette, on va installer un télescope outre les modules Space Lab européens. On demandera la participation des Européens pour un télescope géant qui fait de l'optique, de l'infrarouge et de l'ultraviolet et qu'on installerait en orbite grâce à la navette spatiale et que l'on irait régulièrement ravitailler, dont on remplacerait les instruments au fur et à mesure des années. Donc c'était quelque chose qui allait évoluer, disons, en augmentant la qualité du télescope. Dans les années 85-86, on s'est demandé, mais au fond, quelle est la longueur d'onde, quelles sont les longueurs d'onde les plus intéressantes en astronomie? Parce que c'est pas forcément celles qui sont utilisées pour le Hubble Space Telescope, ce sont d'autres, plutôt l'infrarouge. Et donc, a germé l'idée de construire un télescope beaucoup plus grand, un miroir plus grand que celui du Hubble, mais aussi moins cher et qui ne serait pas régulièrement visité, mais qu'on irait placer beaucoup plus loin que l'orbite basse, parce que le télescope spatial en orbite basse, il est tout le temps gêné par la Terre, donc la masse de la Terre est, qui cache une grande partie des étoiles à toutes les orbites, tandis que si on la place beaucoup plus loin, dans le point de Lagrange L2, comme d'autres télescopes avant, le Planck, le Herschel, même Gaia, sont placés sur un point qui est, un point d'équilibre gravitationnel entre le Soleil et la Terre, mais à 1 500 000 km plus loin que le Soleil depuis la Terre. Et c'est un endroit idéal parce qu'alors là, la Terre est beaucoup plus petite, elle n'a que la taille de la Lune vue depuis la Terre, et surtout, il y a la voûte céleste entière, sauf évidemment qu'on ne va jamais pointer les télescopes que ce soit le Hubble Space Telescope ou les successeurs, vers le Soleil, parce que c'est trop dangereux. Donc, on va aller beaucoup plus loin et on va étudier toute la voûte céleste et surtout, on va avoir un miroir plus grand, mais on ne va pas utiliser l'optique ni l'ultraviolet, mais seulement l'infrarouge, parce que obtenir des images en infrarouge permet de regarder des galaxies qui sont tellement lointaines que leur éloignement, leur vitesse d'éloignement les transforme d'optique, d'image optique en image infrarouge, parce que le redshift, le décalage vers le rouge, entraîne toutes les images vers les ondes infrarouges. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu, mais il faut certaines conditions pour que ce soit possible. Et à l'époque, en 89, quand j'ai remis vraiment l'idée du télescope infrarouge, le Next Generation Space Telescope, le télescope spatial de prochaine génération, on savait qu'il y avait eu la catastrophe de Challenger, donc on n'allait pas utiliser la navette, on n'allait plus utiliser la navette, on allait envoyer le télescope très loin, mais comme on n'utilise plus la navette, on ne peut plus non plus la réparer ou la ravitailler. Donc, c'est pour ça qu'on a espéré que ce soit pas trop cher et que on puisse l'envoyer et que surtout c'était considéré comme un projet flagship, donc emblématique et pour lequel il fallait beaucoup d'argent et une certaine priorité. Et puis, c'est un projet international avec les Européens à nouveau, les Canadiens aussi.
Raoul Lannoy, les premières études de ce projet datent de 1989, le lancement était prévu pour 2014, et finalement, petit à petit, le projet a pris du retard, les dates de lancement ont été petit à petit décalées, ça a pris beaucoup, beaucoup de retard, 7 ans de retard. Pourquoi ça a autant traîné, Raoul Lannoy?
Pour toutes sortes de raisons, on essaie de comprendre ça pour que ça ne se reproduise plus, mais évidemment, la nature du travail entre les firmes qui construisent le télescope et la NASA était pratiquement la cause essentielle du retard et des budgets qui montaient et qui ont sacrifié d'autres missions. Par exemple, le ExoMars, c'est une sonde, enfin donc un rover sur la planète Mars que les Européens ont construit. Ils voulaient le faire avec les Américains. Eh bien, les Américains ont dit, à un moment donné, non, on peut pas continuer. L'argent qu'on aurait pu dépenser avec vous pour l'ExoMars, nous en avons besoin pour le Next Generation Space Telescope qui allait devenir le James Webb Space Telescope. Et donc, en fait, les Européens avaient intérêt aussi que ce télescope puisse aller dans l'espace pas trop tard. Et donc, ils ont accepté que l'ExoMars ne soit plus une coproduction avec les Américains. Mais alors, ils ont évidemment cherché les Russes, et avec le résultat qu'on sait maintenant, parce que ExoMars est mal parti. Mais le principe, c'est on fait des coopérations internationales. Ça a beaucoup de bon, mais ça n'a pas nécessairement que du bon. C'est assez spécial, et tout ça dépend du type de contrat qu'on veut conclure entre agences et entre sociétés au sein des pays qui composent les agences, quoi. Le type de contrat qu'il y avait, notamment avec le SLS et avec le James Webb, ce sont des contrats qui sont extrêmement chers, oui, pour les agences européennes et américaines, parce que ça s'appelle cost plus. Si vous avez un contrat cost plus avec une agence privée, avec une société privée, la société privée n'a pratiquement rien à faire. Tout est payé par la NASA. La NASA demande à la société privée. Et pour le James Webb, en l'occurrence, c'était TRW qui est devenu Northrop Grumman, Grumman est une société qui a fabriqué l'EM à l'époque, donc le module lunaire, et qui a fabriqué les avions qui ont battu les Japonais à Midway, par exemple. Eh bien, les Grumman, enfin Northrop Grumman, devait construire le James Webb exactement selon les spécifications de la NASA. Et s'il y avait un problème technique, alors Northrop Grumman devait demander à la NASA, voilà, il y a ici et là, il y a un problème, nous avons besoin de votre contribution. Eh bien, la NASA pompait de l'argent au fur et à mesure. Et donc, les coûts augmentaient, mais il y avait aussi du retard parce que ils font appel à des sous-traitants qui sont de l'autre côté des États-Unis. Il faut donc attendre que ces sous-traitants soient prêts pour venir. La NASA paye de toute façon tout le temps. Mais pour pouvoir payer, elle doit demander la permission aux sénateurs. Ouais. Ce sont les sénateurs qui détiennent les cordons de la bourse de la NASA, et ce sont les sénateurs qui disent oui ou non, qui votent en faveur ou contre un budget supplémentaire pour la NASA pour fabriquer le James Webb. Et parfois ils disent contre parce que dans leur état, ils sont élus par les habitants de leur état. Les sénateurs n'ont pas toujours des intérêts pour l'espace, ouais, parce qu'ils n'ont pas d'usine de la NASA. Et donc, le problème, c'est le retard du James Webb est provoqué par ce type de contrat cost plus de la NASA envers les sociétés avec lesquelles ils ont contracté et qui font que ça traîne.
Raoul Lanois, je rappelle que vous êtes président du club d'astronomie Vega, un club d'astronomie situé en Belgique. Nous parlons du télescope spatial James Webb. Vous disiez tout à l'heure que le diamètre du miroir de ce télescope était de 8 mètres. C'est ce qui avait été d'ailleurs prévu lors de la première esquisse en 1995. Et puis, 6 ans plus tard, en 2001, eh bien, on ramène le diamètre du miroir à 6 mètres. Pour quelle raison?
Eh bien, pour pouvoir se loger dans la coiffe d'une fusée non récupérable, pas la navette. Et de toute façon, ils n'allaient pas se servir de la navette parce qu'ils avaient trop peur à cause de l'accident de Challenger. Oui. Et puis, il y a même Hermès qui a été puni, enfin qui a été abandonné en partie à cause de l'accident de Challenger. Mais la fusée Ariane 5 était la plus grande, enfin, dont la coiffe était la plus large, et qui permettait de loger un télescope plié, qu'il ne soit pas plus grand que 6,5 mètres. Donc c'était vraiment la limite pour être logé dans une coiffe qui est divisée en deux. Alors évidemment, il y a des tests de vibration, et je suppose qu'il ne peut pas toucher exactement les coiffes, le miroir, parce qu'autrement ça va dégrader. Tous ces tests de vibration qui sont réalisés, c'est dans le but d'être rassuré sur le fait que toutes les pièces vont tenir dans la coiffe.
La fabrication des miroirs a commencé en 2004 et il faudra attendre 2011 pour qu'ils soient achevés. Ça a été très long, Raoul Lanois, la fabrication des miroirs.
Le problème, bon, c'est de l'infrarouge. Oui. Ça n'est pas, on peut pas s'en servir sur Terre. Il faut aller dans l'espace, et ces miroirs doivent être exposés au vide, au froid, très grand froid, et pour que tout soit bien froid tout le temps, il faut empêcher le moindre rayonnement du soleil qui vient de l'arrière, et les miroirs doivent être également construit d'une manière qu'il puisse garder le froid, et surtout qu'il n'y ait pas d'interstice entre les différents segments pour que la lumière ne passe pas à travers et réchauffe les miroirs. Alors, c'est aussi un système de déploiement du miroir secondaire par rapport au primaire. Donc, d'abord, il faut déployer les 18 segments. Donc, c'est un, et puis un au milieu, et puis un à l'extrémité, et qui à droite. Et puis, ça se déploie, et puis il y a les barres qui retiennent le miroir secondaire, qui se déploie une très grande précision pour avoir la meilleure image possible de l'espace lointain, eh bien, dans le froid, sans avoir été vraiment testé, bon, on a testé évidemment dans le froid, sur Terre, mais tous ces tests se font séparément. Alors que quand on lance le télescope d'un coup, tous les événements dont on a fait des tests se déroulent les uns après les autres et il faut veiller à ce que tout soit parfaitement en ordre pendant l'entièreté des... C'était quoi? C'était un mois et demi où, entre le moment du lancement et le moment de l'arrivée au point de Lagrange L2, enfin en orbite autour du point de Lagrange L2, eh bien, tout ça, ce sont des événements qui se succèdent et qui ne pouvaient pas être testés exactement de la même manière parce que chacun des instruments, ben, est testé séparément pour assurer la bonne qualité, quoi. Mais c'est vrai que le principe du télescope infrarouge, c'est qu'il doit se trouver dans un environnement le plus froid possible pour garder cette capacité à détecter les ondes infrarouges que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu.
Raoul Lanois est mon invité. Il est président du club d'astronomie Vega, un club d'astronomie qui se situe en Belgique. On va s'interrompre quelques instants, le temps d'écouter quelques notes de musique, et on se retrouve juste après pour continuer à parler du télescope spatial James Webb. A tout de suite.
I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
C'est l'émission Entre Chiens et Loups, rubrique à toi les étoiles, tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 18h à 19h, on parle d'astronomie et d'astronautique, et aujourd'hui plus particulièrement d'astronautique, puisque nous parlons du télescope spatial James Webb, avec mon invité Raoul Lannoy, qui est président du club d'astronomie Vega, situé en Belgique. Raoul Lannoy, on appelle le télescope spatial James Webb, mais pourquoi ce nom?
Alors, James Webb, le nom James Webb. Monsieur James Webb, c'était l'administrateur de la NASA choisi par Kennedy et dont la mission était de mettre des hommes sur la surface lunaire avant la fin de la décennie des années 60. Et Monsieur James Webb, il est très honoré. Et alors, il a son député, son vice-administrateur qui s'appelle Dryden, Hugh L. Dryden, qui a toutes les connaissances, tous les réseaux, des connexions avec des sociétés, avec des universités, l'armée, etc. Et ils se sont tous rassemblés pour pour fabriquer les engins pour aller sur la Lune, grâce à Boeing. Mais James Webb, il savait aussi autre chose. C'est que contrairement à ce que le président Kennedy souhaitait, il fallait pas seulement s'occuper de la Lune, il fallait aussi mettre des satellites en orbite géostationnaire pour communiquer avec le reste du monde, pour montrer les images de l'homme marchant sur la Lune. Il faut mettre des satellites en orbite géostationnaire. Il fallait aussi impérativement commencer à survoler la Terre pour la météorologie. Donc, tout ça, le président Kennedy, il s'en foutait complètement. Il voulait surtout la Lune. Mais James Webb, avec l'argent qu'il a reçu, littéralement, sans poser de questions par les sénateurs, à l'époque, parce qu'il voulait aussi la Lune, c'est très facile, hein, c'est très formidable. Quand on n'a jamais été sur la Lune, on a très envie d'y aller, quoi. Hein. Donc, c'est d'autant plus facile d'obtenir des budgets parce que on n'a pas encore été sur la Lune, mais ce budget a permis aussi à donc construire aussi des sondes pour aller visiter Mars, Vénus, donc les marinaires, rangers pour la Lune aussi, pour vérifier que le sol de la Lune est assez dur, consistant pour que le lune, quand il se pose, ne s'enfonce pas. Eh bien, toutes ces choses ont quand même pu être réalisées et la science s'est fortement développée à la NASA grâce à James Webb. Mais tout ce qu'on a dit à la suite à propos de son comportement envers les communautés, les minorités LGBT, ça date des années 50. Et c'était quelque chose qui était que tout le monde, enfin, c'était un comportement qui était général et qui n'était pas puni à l'époque et jusque tout récemment. Donc revenir à un passé antérieur à la NASA pour vouloir changer le nom James Webb, c'est, je ne sais pas trop, mais je me suis dit, mais bon, il y a peut-être pas le nom James Webb sur le télescope parce que ben il est parti. C'est quand même un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est pas un scientifique, James Webb, c'est un administrateur. Mais alors, une autre petite différence, c'est que le Hubble Space Telescope, c'est HST, c'est pas Edwin Hubble Space Telescope, EHST. Edwin, c'était le prénom de Monsieur Hubble. Et ici, c'est James Webb. Alors, pourquoi le James pour le télescope infrarouge et pas le Edwin pour le télescope optique, ça, c'est, je ne sais pas trop, mais bon, pour choisir un nom, il y a une commission, parfois même la NASA, il demande au grand public de choisir. Alors, il y a plein d'anecdotes comme ça, parce que nommer James Webb, c'était, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais ça avait l'air évident que ce monsieur avait permis à la NASA de développer tout un réseau scientifique qui était extrêmement productif et qui marche encore aujourd'hui, quoi.
Et la NASA a voulu lui rendre hommage en donnant son nom à un télescope, le télescope James Webb.
Oui, voilà.
Raoul Lannoy, je rappelle que vous êtes président de l'association Vega, un club d'astronomie qui se trouve en Belgique. En ce qui concerne le télescope spatial James Webb, la date de lancement a été maintes fois repoussée. On est arrivé à l'année 2021. Le lancement était prévu pour mars 2021. Ensuite, ça a été repoussé à octobre 2021. Et enfin, c'est le 25 décembre 2021 que Ariane 5 décolle avec le télescope spatial James Webb à son bord. Pourquoi est-ce qu'il y a eu encore des reports comme ça en 2021, Raoul Lanois?
Alors c'est vrai qu'il y a toujours des dernières minutes, tous les lancements. Alors c'est parfois la météo, c'est parfois le lanceur aussi. Et parce qu'il faut qu'il soit extrêmement sûr de fonctionner comme il faut, parce que c'est un télescope qui vaut une fortune. Et il y a aussi la réputation, donc on est toujours très prudent, on n'est pas trop pressé, mais il faut quand même pas que ça traîne trop non plus, parce qu'autrement, ben, mais il y a toujours des soucis de dernière minute qui arrivent et qui sont classiques. Alors un des phénomènes qui font que tout est retardé, c'est un petit peu en amont quand on découvre des nouvelles technologies qui pourrait servir pour le nouveau télescope qui n'est pas encore parti. Et on se dit, mais on voudrait peut-être s'en servir parce que ça peut être utile. Et alors, ben, il y a plein d'autres choses qui doivent changer parce que dans l'espace, toute mission spatiale, l'ennemi, c'est le poids. Tout ce qui pèse trop, eh bien, il faut essayer de diminuer au maximum. Et donc, c'est parce que la fusée n'a pas plus de puissance qu'autant. Alors, je crois que c'était 6 tonnes. C'est beaucoup plus léger que le Hubble Space Telescope. C'est presque deux fois moins massif, enfin deux fois moins lourd que le Hubble Space Telescope. Mais il faut surtout pas que ça pèse plus. Et ça s'est passé avec Grumman notamment, la même société pour le LEM dans les années 67-68. 69, surtout en 68, le LEM pesait trop lourd et il a fallu trouver à gauche, à droite, toutes sortes de moyens d'alléger l'engin et ils sont parvenus à le faire avec quelques sacrifices. Eh bien, il y a un des sacrifices, bon, il n'y a pas seulement que le volume, il y a le poids, ça c'est très important.
Raoul Lanois, vous avez expliqué en début d'émission que lorsqu'on a lancé le télescope spatial Hubble, on réfléchissait déjà à son successeur, qui est donc le télescope spatial James Webb. Celui-ci vient d'être mis en orbite. Est-ce qu'on est déjà en train de réfléchir à un successeur au télescope spatial James Webb?
Oui, il y en a un qui s'appelle LUVOIR. C'est un nom très français. Large Ultraviolet Optical et Infrared Télescope. Et celui-là, moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'on puisse le monter avec des astronautes en orbite basse. Et donc là, on serait un peu plus sûr de la qualité de l'engin avant de le mettre à poste. Et on pourrait même peut-être le ramener sur une orbite basse pour le réparer après ou l'entretenir. Mais ici, c'est le James Webb Space Telescope. Il fallait absolument qu'il fonctionne. Et ça s'est produit ainsi, mais pendant des années, on avait l'angoisse. Est-ce que ça allait fonctionner? Donc, finalement, on prend tellement de précautions. Peut-être qu'on en prend trop aussi. Hein. On voit toujours après coup, tiens, on aurait dû faire un peu plus par-ci et un peu moins par-là. Mais c'est toujours après coup qu'on s'en aperçoit. Parce que c'est de la nouvelle technologie. Mais c'est de la nouvelle technologie sans vraiment l'être. C'est un télescope très nouveau et avec un système très nouveau. Et surtout, les 5 toiles, ils doivent protéger de la chaleur du soleil. Il faut surtout que ça soit bien tendu et qu'aucune de ces 5 ne touche l'autre. Elles sont suspendues l'une au-dessus de l'autre parce que s'il y en a une qui touche l'autre, alors la chaleur qui vient de la toile de la plus exposée au soleil va se transmettre aux autres toiles et donc c'est foutu, quoi. Mais ça demande un déploiement et puis il faut des salles gigantesques pour pouvoir le faire aussi, quoi.
Décollage le 25 décembre 2021 à bord d'une Ariane 5. Il faudra ensuite près d'un mois au télescope spatial James Webb pour se rendre au point Lagrange 2, là où il se trouve actuellement et là où il travaille. Par quel moyen il a été propulsé, Raoul Lanois, ce télescope?
Alors, ce sont des... Donc, le premier étage de Ariane, c'est classique, les étages latéraux également. Alors il y a un moteur qui propulse le vaisseau dès qu'il est arrivé en orbite très lentement. Alors ce n'est pas un moteur ionique, c'est un moteur classique, mais avec du carburant de style hydrazine, oxygène, hydrogène, mais avec une poussée très lente. Elle doit être suffisante pour qu'il faut quand même quitter l'environnement terrestre, mais sans secouer l'engin, quoi. Et le principe, c'est de jouer avec la présence de la Lune ou son absence et aller vers ce point de Lagrange L2 de sorte que quand on l'atteint vers 1 500 000 km de distance, ça fait 5 secondes lumière, eh bien, quand on y arrive, on a pratiquement la vitesse nulle, ou enfin quelques 2 000 à 3 000 km à l'heure, contrairement aux 28 000 au départ. Pour aller vers, pour quitter la Terre, il faut, et quitter même la Lune, il faut faire du 40 000 km à l'heure. Et donc, on passe de 28 000 à 40 000 à l'heure, de telle sorte que il n'y ait plus de tour autour de la Terre, mais que dès que le moteur est allumé, l'engin poursuit sa route en direction de L2 sans refaire un tour comme certaines sondes aujourd'hui, comme Capstone. Le Capstone qui va vers l'orbite de Halo autour de la Lune, il va mettre 4 mois alors que c'est la Lune. Et ici, il faut plusieurs semaines pour atteindre L2 et il faut à peu près 4-5 jours pour dépasser la Lune. C'est à peu près comme Apollo, mais bon, Apollo c'était 3 jours et puis il fallait freiner très fortement. Ici, il y a pas, il faut pas freiner, mais il faut avoir une vitesse suffisante pour que quand elle s'éloigne de la Terre et qu'elle ralentit parce qu'elle est attirée par la Terre, même avec sa vitesse, dès qu'un moteur s'arrête, eh bien, l'engin commence déjà à ralentir. Et je crois qu'on voyait ça avec les graphiques. Le télescope n'arrêtait pas de ralentir à partir du moment où le moteur s'est arrêté, parce qu'il est attiré par la Terre. Mais il est suffisamment rapide pour aller jusqu'à l'endroit où l'orbite est entre, enfin, la gravité entre le Soleil et la Terre se compense pour qu'il puisse rester dans cette zone.
Raoul Lannoy est mon invité, il est président de l'association d'astronomie Vega, un club d'astronomie qui se trouve en Belgique. Nous parlons du télescope spatial James Webb. Restez avec nous, dans quelques instants on parlera des premières images acquises par le télescope. Ce sera juste après un peu de musique. À tout de suite.
Écrire un avenir pour encore découvrir ce qu'on ne pas lire. Demain, un regard qu'on désire, l'envie de réussir, tout ce qui nous inspire. Demain, à chaque jour une chance qui va et vient, à chaque seconde une évidence, quand on veut bien tendre la main, à chaque pas une danse.
IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être.
Merci d'écouter IDFM Radio, la radio du bien-être. Comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 18h à 19h, vous retrouvez l'émission Entre Chiens et Loups, rubrique À toi les étoiles, où pendant une heure, on prend de la hauteur pour voir ce qui se passe dans l'espace. Le thème de cette émission aujourd'hui est le télescope spatial James Webb, avec comme invité Raoul Lanois, qui est président du club d'astronomie Vega, un club d'astronomie qui se situe en Belgique. Raoul Lanois, avant cette pause musicale, nous disions que le télescope spatial James Webb s'est donc placé sur le point Lagrange L2, là où il travaille, et il nous a envoyé un petit peu plus tôt que prévu une première image, et l'image. Waouh, on est resté scotché par la beauté du spectacle, n'est-ce pas, Raoul Lanois?
Oui, oui. Alors, ce qu'ils font, c'est comparer des images de télescopes infrarouges précédents. Je crois que le Spitzer est un télescope infrarouge qui a fonctionné et puis qui a arrêté, mais il est beaucoup plus petit. Et puis l'IRAS, c'est un télescope américano-hollandais. Eh bien, ils comparent et on voit que la qualité est nettement meilleure. Aujourd'hui, par exemple, il y avait une image dans le nuage de Magellan, le grand nuage de Magellan. Il y a une série d'étoiles qui étaient très proches l'une de l'autre, qui étaient vraiment floues avec Spitzer, mais qui là étaient beaucoup plus nettes. Évidemment, il y a un petit truc, un détail qui apparaît à toutes les images importantes, toutes les images éclatantes en infrarouge, c'est qu'il y a des rayons, des spikes qui ont une forme hexagonale plutôt que carrée. Alors le Hubble Space Telescope, les étoiles très brillantes ont des aigrettes très, en forme de croix, et ici c'est en forme de d'hexagone, quoi. Il y a 6 branches, ces aigrettes. Et ça, c'est dû à la forme du télescope qui est hexagonal. Mais ce sont les objets très brillants qui réfléchissent très fortement en infrarouge, qui sont très chauds, qui brillent beaucoup plus que d'autres corps. Ça dépend de la matière, hein. Eh bien, là, on voit littéralement des aigrettes. Alors, je ne sais pas exactement comment ils vont faire. Ils vont certainement concentrer des observations particulières pour tel objet dans le système solaire ou telle étoile qu'on devrait cacher pour montrer des planètes, des exoplanètes autour. Et pour qu'on puisse les montrer, il faut cacher l'étoile qui émet la lumière. Mais comme on est en infrarouge, l'intérêt, c'est que les exoplanètes réfléchissent proportionnellement beaucoup plus d'ondes infrarouges que les ondes optiques. Quand elles sont à proximité d'une étoile, quand on regarde de manière optique, eh bien, la lumière d'une étoile est tellement forte qu'elle empêche de voir les planètes autour. Mais en infrarouge, le contraste entre l'étoile et l'exoplanète est moindre. Donc, on voit un peu mieux l'exoplanète par rapport à l'étoile. Et même que, par exemple, des planètes du système solaire, on voit mieux certains détails autour de ces planètes que la planète elle-même, ou en tout cas qu'on ne voyait jusqu'à ce moment-là. Enfin, il y a des surprises agréables dans le système solaire aussi.
Raoul Lanois, pour contrôler la qualité du télescope spatial James Webb, la première image qu'on lui a fait faire, c'est une image très profonde de l'univers, hein, c'est ça?
Oui. Alors, le Hubble Space Telescope, autrefois, avait fait une image qui s'appelait le Deep Field.
Voilà.
Ultra Deep Field. Donc, des milliers de galaxies dans le très lointain, des milliards d'années-lumière. Eh bien, cette fois-ci, on a fait la même chose avec le James Webb. C'était la première image montrée, même en présence du président Biden. Ça, ils ont, au lieu de mettre 12 jours, comme pour le Hubble, ils n'ont mis que 12 heures, pour le, ou même 10, enfin très peu de temps, pour cette seule image et qui montre encore plus de détails, un peu plus de détails que l'image du Deep Field de Hubble, mais ça, ça promet aussi. Alors évidemment, le petit truc, c'est toutes ces images ont des couleurs particulières, mais c'est pas ce qu'on peut voir. Donc, s'il y a quand même des couleurs, c'est qu'on l'a artificiellement décidé que tel objet lointain devait avoir telle couleur, parce que alors ça dépend de la composition chimique majeure. Ben, donc, en majorité qu'on trouve dans telle et telle galaxie, alors on va la colorer comme ça. Mais, par exemple, quand on fait de l'optique, on montre ce qu'on voit. Mais même là, c'est pas tout à fait vrai non plus. Parce que l'œil humain ne peut pas voir aussi clairement, aussi profondément. Il ne voit qu'en noir et blanc quand tout est extrêmement sombre. Et donc, même le Hubble, quand c'était de l'optique, c'était aussi des images retravaillées. D'ailleurs, il y a toutes des équipes. Et une partie du succès des images du Hubble et maintenant qu'on espère aussi pour le James Webb vient du traitement des images par les experts au Maryland, c'est le Space Telescope Science Institute. À Goddard, dans le Maryland. Donc ça, c'est encore une des agences de la NASA, mais qui était spécialisée dans l'interplanétaire, les images venant des sondes interplanétaires. Maintenant, c'est les télescopes spatiaux, et en particulier ceux qui sont les plus avant-gardistes, ceux qui permettent de faire des découvertes. Alors, une chose, en infrarouge, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire plus de découvertes, il me semble, qu'un le Hubble Space Telescope. Parce que le Hubble Space Telescope ne me faisait que montrer des choses qu'on connaissait. C'est-à-dire que les équipes qui voulaient prendre des images prises par le Hubble Space Telescope devaient passer des sélections et montrer que leur projet est intéressant et qui va montrer des résultats. Mais pour ça, il faut que les gens qui analysent ce projet trouvent qu'il y a moins de risques, qu'il n'y a pas trop de risques, qu'il n'y ait rien. Et donc, ils vont choisir des objets d'études qui vont être pratiquement être certains d'avoir des résultats. Alors, ça, c'est le Hubble Space Telescope. Et le prix à payer, c'est qu'on n'a pas fait beaucoup de découvertes avec le Hubble Space Telescope. Par exemple, la première exoplanète, c'est pas le Hubble qui a pris, hein, ce sont les Suisses à l'OHP qui l'ont photographié parce qu'ils avaient le temps et ils revenaient tout le temps et tout le temps et tout le temps. Ça, on peut pas faire pour le Hubble, on pourra pas faire pour le James Webb non plus. Par contre, on aura plus de, on aura pas besoin d'autant de temps pour les mêmes images pour le James Webb qu'on a eu pour le Hubble. Donc, on a peut-être plus de latitude pour d'autres équipes pour qu'ils puissent proposer des projets qui valent la peine, pour lesquels on n'a pas trop de risque de se tromper. Mais il y avait un projet, le Hubble Deep Field, où on ne savait absolument pas si ça allait marcher. C'était pointé carrément le télescope Hubble dans le vide, dans un endroit où il n'y a pas d'étoiles, et pointé pendant 12 jours, tout le temps, et c'est là qu'ils ont vu 30 000 galaxies, très très lointaines. Alors là, c'était la plus belle photo, elle me fait, c'est mon sauveur d'écran sur mon ordinateur. On va faire la même chose avec le James Webb, mais ça, là, on sait déjà qu'on aura des résultats. Et d'ailleurs, on trouve, sur cette image, on trouve aussi ce qu'on appelle des anneaux d'Einstein, donc des anneaux gravitationnels, donc des images déformées par la gravitation de masses plus proches, des images de galaxies beaucoup plus lointaines. Et il y en a beaucoup comme ça. Donc, ça pullule dans le ciel. Et au plus on va profondément dans le ciel, au plus on en trouve des images déformées par la gravitation. Donc, des lentilles gravitationnelles, comme on l'appelle. Eh bien, c'est déjà un résultat très intéressant pour le James Webb. Mais alors évidemment, il faut que tout le matériel fonctionne correctement et qu'il n'y ait pas trop de surprises, parce qu'il paraît qu'il y a quelque chose avec un souci avec Miri. Il faut, disons, un certain nombre de tests de l'engin pour voir qu'il est bien aligné comme il faudrait. Mais ils ont le temps. Et surtout grâce à la fusée Ariane, ils ont quoi, 2 fois plus de temps pour opérer le télescope que ce n'était prévu au départ. Donc 20 ans au lieu de 10.
Ah oui, en effet, parce que au début, la durée de vie était courte, hein. On avait parlé de 5 ans tout d'abord, et puis ensuite on a prolongé à 10 ans.
Oui, mais dès le départ, hein, quand j'ai entendu que ça allait avoir une durée de vie de 5 ans, je me suis dit, mais enfin, ça n'a rien à voir avec le Hubble. Le Hubble, il est là déjà, il travaille depuis 31 ans, 32 ans maintenant, et il a bénéficié des réparations, des entretiens successifs. Mais 32 ans, comparé à 5 ans, c'était quand même... Bon, ça est devenu 20 ans. Bon, ça a été étendu jusqu'à 10, et puis 20 ans. Mais tout dépend du bon état du matériel et des détecteurs, et surtout qu'on vient de s'apercevoir, enfin, pas très longtemps après sa mise à poste, il y a un micrométéorite qui a percuté un des miroirs et qui était un peu plus gros qu'on pensait, quoi. Mais ce sont pas des débris laissés par des traces humaines, c'est carrément des micrométéorites qui voyagent dans le système solaire. Et bon, c'est une affaire de statistique. Bon, je vais régulièrement sur le site pour voir s'il n'y a pas des nouvelles images. Parce que là aussi, pourquoi on reçoit telle nouvelle image et on attend pour telle autre? Alors, j'ai des amis qui sont au courant de recherches faites sur des images qui ne sont pas encore publiées, pour lesquelles on ne peut encore rien dire. Ça, c'est aussi une petite astuce, une petite blague qu'il y a avec les astronomes professionnels qui sont au courant de choses que nous n'avons pas encore, dont nous n'avons aucune idée.
Oui, enfin ça, Raoul Lannoy, c'est une habitude qu'ont toutes les agences spatiales, hein. Lorsqu'ils font des découvertes, ils gardent quelque temps le secret avant de rendre public. Raoul Lannoy est mon invité, il est président de l'association d'astronomie Vega, une association qui se trouve en Belgique. Nous parlons du télescope spatial James Webb. On va s'interrompre pour une troisième et dernière pause musicale et on se retrouve juste après pour la quatrième et dernière partie où nous allons parler encore des découvertes de ce télescope spatial et conclure l'émission. À tout de suite.
Faut pas baisser les bras, pas baisser les bras, faut pas baisser les bras. Faut pas baisser la voix, pas baisser la voix. Tu verras, on y arrivera. Mais pour ça, pas baisser les bras, faut pas baisser les bras. Mais pour ça, faut pas baisser les bras. On va rester debout, on va tenir le coup, on ne se tiendra pas, on baissera pas les bras. Wakulu manjena. Faut pas baisser les bras, pas baisser les bras, faut pas baisser les bras. Personne ne nous arrêtera, personne. Faut chanter, faut pas baisser la voix, pas baisser la voix. Tu verras, on y arrivera. Mais pour ça, pas baisser les bras, faut pas baisser les bras. Mais pour ça, pas baisser les bras, faut pas baisser les bras. On va rester debout, on va tenir le coup, on ne se taira pas, on baissera pas les bras.
Vous écoutez Entre Chien et Loup, rubrique À toi les étoiles sur IDFM Radio, la radio du bien-être. Tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 18h à 19h, on prend de la hauteur pour voir ce qui se passe dans l'espace. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui du télescope spatial James Webb avec comme invité Raoul Lannoy, qui est président de l'association d'astronomie Vega, une association d'astronomie qui se trouve en Belgique. Raoul Lannoy, nous parlions des premières images du télescope spatial James Webb, et il a déjà fait une première découverte majeure, puisqu'il a trouvé dans l'atmosphère d'une exoplanète, c'est-à-dire d'une planète qui n'est pas située dans notre système solaire, il a trouvé la présence de CO2.
Voilà. Donc, les spectrographes peuvent détecter des substances chimiques dans des atmosphères grâce à la lumière des étoiles donc grâce au spectre de ces substances chimiques qui passent vers le, enfin qui voyagent dans l'espace, qui arrivent au détecteur, et ben il est tellement sensible qu'il peut détecter du CO2 aussi dans l'atmosphère d'exoplanètes. Et mais donc tout ça avance considérablement, et mais évidemment les spectrographes, c'est pas très spectaculaire parce que ce sont des graphes, ce sont des donc abscisses coordonnées abscisses, et bon, on voit autant de petits points et une ligne qui fait la moyenne, etc. Ça n'est pas très vendeur comme moyen de communiquer, mais c'est beaucoup plus utile pour les scientifiques. Et pour les scientifiques, il faut quand même leur laisser toute l'information. Alors évidemment, quand il y a les scientifiques qui ont les connaissances de telle et telle substance dans une atmosphère, eh bien, on peut faire appel à des artistes qui font une représentation imagée de la planète à partir de laquelle on a eu les informations.
Eh bien, en tout cas, Raoul Lannoy, quand on voit les premières images très prometteuses que nous envoie ce télescope spatial James Webb, on se dit que les 20 prochaines années vont être passionnantes, et on suivra ça de près, bien sûr. Merci beaucoup, Raoul Lannoy, d'avoir participé à cette émission À toi les étoiles. Je rappelle que vous êtes président du club d'astronomie Vega, qui se trouve en Belgique, plus particulièrement à Gembloux, dans la province de Namur. Et vous avez un site internet, si les auditeurs veulent s'y rendre, c'est www.astrovega.be. Merci beaucoup, Raoul Lannoy, de votre participation à cette émission À toi les étoiles.
Merci Franck, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio. Elle vient de faire son entrée à l'instant dans les studios, c'est Olia. Bonsoir Olia. Vous allez la retrouver dans un instant pour son émission Happy Hour. Quant à nous, on se donne rendez-vous le troisième mardi du mois de novembre. Ce sera le mardi 15 novembre de 18h à 19h. Souvenez-vous, le mois dernier, je vous avais dit que, en fonction de l'actualité, l'émission du mois d'octobre serait consacrée soit à la mission Artemis, le successeur des missions Apollo, les missions lunaires, soit au télescope spatial James Webb, si Artemis subissait un nouveau report, ce qui a été le cas. Nouvelle date de lancement programmée pour le 14 novembre, la veille de l'émission. Ce sera un petit peu trop juste pour en parler dès le lendemain. Donc je vous propose de repousser l'émission sur Artemis au mois de décembre, d'autant plus qu'en décembre 2022, nous célébrerons le 50e anniversaire de la mission Apollo 17, la toute dernière mission lunaire. Donc ce sera l'occasion de se remémorer de ce qui s'est passé il y a 50 ans, et puis de parler de cette nouvelle mission lunaire Artemis. Donc soyez au rendez-vous, ce sera le mardi 20 décembre de 18h à 19h. Auparavant, on se donne donc rendez-vous le mardi 15 novembre de 18h à 19h. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes d'IDFM Radio et rendez-vous le 15 novembre. Au revoir à tous.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
IDFM Jazz, c'est du jazz, rien que du jazz avec Louis Nicoletto. Retrouvez-moi tous les mercredis de 20h à 21h et découvrez les grandes voix et musiciens du jazz.
IDFM Jazz, 98 FM.
Mamaïla revient le 29 octobre 2022 au Tapis Rouge à Colombes. Après un spectacle complet à guichet fermé à l'Atrium Scène Nationale en Martinique en juin dernier, Mamaïla vous retrouve en Île-de-France pour son concert Mamaïla Perfecta, tribute to Daniel Marie Alphonsine au Tapis Rouge, 9 rue de la Liberté à Colombes, samedi 29 octobre 2022 à 20h. Venez découvrir ou redécouvrir les plus belles compositions de la cadence martiniquaise pour danser, swinguer et partager du soleil et de la joie pendant plus de 2 heures de concert autour des plus grands succès de la mythique Perfecta par les 18 musiciens, chanteurs et danseurs de Mamaïla. Un événement présenté par CactifTV.com, restauration gourmande proposée par Lily Bangou. Une production SMS Artiste. Billets disponibles sur place et sur Bizouk. Renseignements au 06 74 62 72 25.
IDFM Radio, partenaire officiel de SMS Artiste.